Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invité aujourd'hui, c'est un proche, un très proche du chef de l'État. Il s'est engagé dès la première heure dans le petit commando qui s'est battu aux côtés d'Emmanuel Macron dans sa conquête du pouvoir. Et dans une tribune qu'il publie aujourd'hui dans Le Parisien, il appelle les habitants des quartiers à s'investir dans le grand débat national, à ne pas laisser ce débat confisqué par les gilets jaunes. Débattons, pas seulement sur les ronds-points, mais aussi en bas des immeubles. Ce sont ces mots et on va justement en débattre avec lui. Le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, vient de s'installer dans le studio de Questions Politiques pour intervenir l'application France Inter ou le hashtag QuestionPol.
France Inter, Questions Politiques, Ali Badou.
Bonjour Julien Denormandie.
Bonjour.
Et bienvenue pour vous interroger le commando de questions politiques, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut.
Beaucoup de questions à vous poser, Julien Denormandie. Hier à Marseille, des milliers de personnes défilaient pour dire leur colère contre le mal-logement. On va évidemment y revenir, mais c'était aussi hier une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes. 12 semaines que ça dure. Et hier, une marche contre les violences policières pour dénoncer l'usage notamment des LBD. Jean-Luc Mélenchon critiquait sur un tweet la violence gratuite de la répression qui avait lieu hier place de la République. Il qualifiait Emmanuel Macron de président flashball.
Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, en ce moment, il hurle beaucoup. Il est un adepte des petites phrases. Il parfois s'offusque à ce que on puisse avoir une position très ferme pour éviter ces casseurs qui empêchent d'autres personnes de manifester. Et là où il s'offusque de l'utilisation d'un certain nombre de dispositifs dans notre République, il fait en même temps le plaidoyer de Monsieur Maduro, pour lequel il y a eu aujourd'hui plus de 40 morts dénoncés par les Nations Unies. Donc je crois que Monsieur Mélenchon n'a absolument pas de cohérence dans ses propos, absolument pas.
Mais si et on reste en moment, France, on a tous vu les images de blessures et de blessures graves causées par les armes qu'utilisent les forces de l'ordre. C'est vrai que c'est du jamais vu dans l'histoire récente de notre pays. Pourquoi nier cette évidence-là ?
Non, mais vous savez, il faut être très ferme sur deux choses. La première, c'est que, évidemment, toute utilisation d'armes doit être proportionnée. Et si, y compris les forces de l'ordre, font des utilisations non proportionnées, à ce moment-là, il y a des enquêtes administratives et des sanctions qui doivent être prises. Le Premier ministre, par exemple, a été très ferme sur ce point. Mais le deuxième sujet qui se pose en ce moment, c'est que au bout de cette 12e journée de mobilisation, vous avez encore des scènes inacceptables. Vous avez des personnes qui ne sont pas les gilets jaunes, qui sont des casseurs qui, songez-le, s'attaquent aux forces de l'ordre en lançant de l'acide, des boules de pétanque, en allant au corps à corps pour aller taper et casser du
flic. Mais là, vous changez de
mais
sujet.
Mais ça, c'est inacceptable. Non, je change pas de sujet.
Parce qu'il y a des blessures malgré tout.
Mais les blessures, les blessés, il faut remettre le clocher au milieu du village. Si jamais il n'y avait pas l'utilisation de la violence de la part de ces casseurs, de ces personnes qui n'ont d'autre objectif que d'aller taper du flic, mettre à mal nos institutions, alors évidemment, il n'y aurait pas de l'autre côté l'utilisation de la force par les policiers ou les gendarmes. Mais la responsabilité d'un gouvernement, c'est de faire en sorte d'assurer la sécurité de chacun, c'est-à-dire y compris ceux qui souhaitent manifester.
Les Karine. LBD, malgré tout, on comprend effectivement que dans ce contexte, l'État, et donc notamment le Conseil d'État, n'ait pas voulu les interdire, les a simplement suspendus pour l'instant. Est-ce que malgré tout, vous dites qu'à un moment donné, il va falloir réfléchir à l'utilisation de ces LBD ? Est-ce que dans un avenir plus ou moins proche, il va falloir sérieusement s'interroger sur cette arme-là ?
Mais vous savez, moi je suis très pragmatique là-dessus. Vous avez à la fois des représentants des forces de police, des experts sur la question, et puis des personnes qui représentent la juridiction, c'est-à-dire le Conseil d'État. Les deux se sont prononcés en faveur de l'utilisation de cette arme, si tant est que cette arme soit utilisée de manière proportionnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est considéré comme un arsenal nécessaire pour faire quoi ? Ben pour assurer la protection de celles et ceux qui souhaitent manifester.
Mais on fait quoi contre les dérapages ?
La protection des policiers.
C'est pas toujours proportionné. Mais donc sur les dérapages, on fait comment ? Il y en a quand même quelques-uns.
Quand maintenant. Il y a des dérapages, ce que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a mis en place, c'est un, qu'il y ait des vidéos. C'est-à-dire que ceux qui utilisent le LBD aient ces vidéos piétons, comme on dit, pour pouvoir filmer leur utilisation. Deuxièmement, quand il y a des dérapages, il y a des enquêtes administratives. Il y a une police des polices qui estiment si oui ou non l'utilisation
a été proportionnée. Combien de policiers ont été suspendus à ce jour après 12 semaines?
Je ne pourrais pas vous dire, mais ne m'en veuillez pas, je ne suis mais pas ministre de l'Intérieur. Non, mais les enquêtes, là où je ne suis pas d'accord avec vous, Ali Badou, c'est que les enquêtes à chaque fois ont été menées. Est-ce que les enquêtes sont finalisées? Probablement non. Et donc, à chaque fois, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre ont été très clairs sur ce point. Mais encore une fois, il faut avoir raison de garder. Ne déportons pas le débat. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que ça fait 12 semaines que vous avez des scènes de violence. Et donc, le débat aujourd'hui, on le déporte sur quoi? Sur celles et ceux qui sont aussi des pères et des mères de famille. Il y a 1200 blessés côté forces de l'ordre, qui sont aussi des pères et mères de famille, qui essayent de faire quoi? D'assurer la protection des Français.
Donc, ne déplaçons pas le débat. Comment sortez-vous de ce piège alors que vous avez lancé un grand débat national qui, par ailleurs, marche bien? Et on voit quand même, chaque semaine, des manifestations qui posent le problème de la violence des deux côtés, violence des manifestants, mais aussi violence d'État, et qui, finalement, finissent par ronger aussi la démocratie, dans la mesure où vous êtes obligé d'adopter des lois, lois anti-casseurs. Certains députés de La République En Marche s'inquiète en disant attention à l'état de droit. Donc,
Aurélien Taché dit même qu'il ne votera pas et il ne sera peut-être pas le seul.
Comment sortez-vous de ce piège qui fait que vous n'arrivez pas à arrêter ces manifestations?
Mais moi, je crois que
Julien de Normandie.
Moi, je crois qu'aujourd'hui, le combat, il ne doit pas être dans la rue, il doit être dans le cadre du débat. Il faut quitter les ronds-points pour se mettre autour de la table,
mais
pour discuter.
Mais ce qu'il dit, c'est qu'ils n'ont pas envie.
D'accord. Hier, si on est très factuel, il y a 58 000 manifestants. D'accord. Au même moment, vous avez 600 000 contributions sur le site du Grand Débat. 600 000. Vous avez au même moment plus de 3 300 réunions qui se tiennent. Donc, elle est où également la dynamique? La dynamique, elle est créée autour de ce débat. C'est des centaines de milliers de nos concitoyens qui y participent. Mais ça aussi, il faut le mettre en avant. Samedi hier, vous avez 10 000 manifestants de moins par rapport à la semaine dernière. Donc moi, ce que je veux dire à toutes celles et ceux qui, de manière légitime, crient leur colère, c'est qu'aujourd'hui, la colère, elle doit s'exprimer dans le débat. C'est un événement totalement inédit.
Qui veut dire que ceux qui restent dans la rue aujourd'hui, pour vous, leur action, elle est illégitime aujourd'hui?
Non, je dis pas ça. Je dis qu'aujourd'hui, il y a une main qui a été tendue par le président de la République, par le gouvernement, d'organiser cet exercice totalement inédit, jamais vu sous la Ve République, jamais, de faire cette grande consultation, cette grande concertation, pour se dire collégialement, mais quel est le modèle de société qu'on veut? Quel est, par exemple, le consentement à l'impôt? On le voit aujourd'hui, il y a une vraie mise à mal de ce consentement à l'impôt, alors que le consentement à l'impôt, ça fait partie des bases de la cohésion d'une République. Quel est le chemin qu'on veut dessiner pour faire cette transition écologique? Comment
voulez-vous supprimer l'ISF?
D'opposer, mais tout c'est la fiscalité, c'est un sujet qui est au cœur de ce grand débat. Et moi, ce que je constate, c'est que oui, il y a 58 000 manifestants hier, mais enfin, vous avez 600 000 contributions, 600 000 concitoyens qui participent à ce grand débat, et je crois qu'il faut le saluer.
Mais est-ce que ce grand débat va pas finir par être trop long finalement, parce que chaque samedi, les manifestations continuent, ce débat va durer jusqu'à au moins le 15 mars. Ça veut dire encore 6 samedis où on va voir des jaunes défilés. Est-ce qu'il va falloir finalement raccourcir cette organisation?
La difficulté, c'est que si on avait fait un débat qui avait été très court, vous m'auriez posé une question inverse en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce grand débat? Oui. Il est trop court, on ne peut pas s'exprimer. Donc on a fait le choix d'un débat qui dure à peu près 3 mois, qui se termine mi-mars, avec cette dynamique qui est créée. Moi, j'étais par exemple, il y a 2 jours, à Trappes, pour faire un grand débat dans les quartiers prioritaires de la ville. Mais il y a une dynamique incroyable. C'était la question qu'on a débattue pendant 3 heures, c'est le rôle des parents dans la citoyenneté des enfants. Un sujet qui ne fait pas l'objet de discussions sur les plateaux de radio ou de télévision et pour lequel tous les parents présents, les mères de famille dans les quartiers qui ont une charge souvent très forte, ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de propositions à faire. Et bien, de ces grands débats, moi je le crois, il y a des nouvelles propositions, des nouvelles moyens, de nouveaux moyens de faire société qui vont
votre
émerger.
Votre tribune, celle que vous publiez dans Le Parisien, est étonnante quand vous demandez aux habitants des quartiers de rejoindre le grand débat, quand on pense que le gouvernement, que les pouvoirs publics, il y a un mois encore, craignaient que les quartiers populaires ne rejoignent les gilets jaunes quand le mouvement était au plus fort. Très peu de réunions sur le grand débat sont organisées dans les quartiers. Vous appelez aujourd'hui tous les citoyens, tous ceux qui sont habitants dans des cités ou dans des quartiers sensibles, à rejoindre quoi? La mobilisation ou la discussion?
À rejoindre la discussion. Mais vous savez, ce grand débat, ça doit être le grand débat de tous les Français. De tous les Français. Aujourd'hui, vous avez un jeune sur 6 qui habite dans les quartiers prioritaires de la ville. Mais comment peut-on imaginer qu'à l'issue de ce grand débat, toutes les propositions qui seront reprises ne prennent pas en compte l'avis d'un jeune sur 6 qui, en plus de
alors
cela...
Alors, pour le coup, ils sont vraiment absents. Les 16-24 ans, pour le coup, sont totalement absents du grand débat.
Mais c'est bien ça, l'enjeu. C'est de faire en sorte que chaque Français considère que ce grand débat, c'est aussi le sien. Et dans les quartiers prioritaires de la ville, vous savez, vous avez beaucoup de revendications qui sont identiques à celles des Gilets jaunes. Beaucoup. Ce sentiment d'être empêché, moins de services publics, ce sentiment de ne pas être maître de son destin. Et puis, peut-être, vous avez même une résignation encore plus forte que sur d'autres territoires. Et donc peut-être encore plus de difficultés à exprimer cette voix. Et donc moi, je leur dis, je suis à vos côtés pour exprimer cette voix et apporter ces propositions dans le grand débat.
Alors comment sortir de la crise, Julien de Normandie? Vous avez sans doute lu le journal du dimanche qui fait sa une aujourd'hui sur un référendum que prépare le président de la République. Référendum qui aurait lieu le même jour que les élections européennes en mai prochain. Est-ce que vous le confirmez?
Non, alors moi je pense qu'il faut être là aussi très clair, c'est-à-dire que
La question elle est simple.
Allez, voilà, c'est oui ou non.
Votre question est simple.
Vous êtes l'un des plus proches du président de la République.
L'article du JDD met en avant ces différentes hypothèses. Ce serait extrêmement présomptueux qu'aujourd'hui je vous indique quelle va être la sortie du débat. Ce serait extrêmement présomptueux.
Le JDD le fait ?
Non, le JDD rapporte une analyse faite par la personne qui écrit cet article.
David Robodallon, regardez la une, il y a écrit « Révélation,
je l'ai vu.
Le chef de l'État prépare dans l'ombre une consultation des Français pour sortir de la crise des Gilets jaunes ».
C'est ce que je viens de vous dire, c'est la personne qui écrit cet article qui donne son analyse de la chose.
C'est possible ou pas ?
Mais tout est possible. Je vais être très clair, tout est possible. Absolument tout est possible. Mais en même temps, ce serait très présomptueux de ma part de vous dire, ou de quiconque, de vous dire, aujourd'hui, la sortie du grand débat, ce sera ça. Pourquoi ? Parce que justement, on est en train de faire ce match du grand débat. Attendons que le match soit finalisé, soit joué, pour savoir quelles vont être les sorties.
Nathalie
Et puis le deuxième
Sacré-Cœur.
Élément sur lequel je voudrais insister sur ce référendum, c'est que le référendum, c'est un outil, c'est un moyen. C'est uniquement un outil, un moyen. On érige ce référendum comme quelque chose qui serait l'objet de sortie. Mais c'est une erreur. Ce référendum, c'est un outil, un moyen. Qu'est-ce qui importe ? C'est quelle issue de ce grand débat ? On définisse quelles sont justement les mesures nouvelles, quelles sont les propositions nouvelles. Et après, si c'est un référendum, si c'est une voie parlementaire, si c'est une voie réglementaire, eh ben, je peux vous dire que notre méthode, c'est de définir quelle est la chose la plus rapide, la plus pragmatique pour y arriver.
Justement, à propos de ce référendum, dans ce qui est révélé ce matin, on parle essentiellement de sujets institutionnels, la proportionnelle, une autre mode de gouvernement. Est-ce que vous pensez que ce grand débat peut se traduire uniquement par une réponse sociétale ou institutionnelle, ou est-ce que le volet économique sera absolument fondamental? Ce matin, Laurent Wauquiez chez nos confrères d'Europe 1 disent c'est sympa, mais j'ai pas beaucoup vu de gilets jaunes me sautant dessus en disant la proportionnelle. En gros, il y a ce volet-là, mais la réponse économique et sociale sera fondamentale. Quelle est votre...
Je suis totalement d'accord avec vous. La sortie du grand débat n'est absolument pas qu'une sortie sur un volet institutionnel.
Vous êtes d'accord avec Laurent Wauquiez là.
On a l'impression que l'Élysée est plutôt sur cette option.
S'il y a bien une personne qui n'est pas d'accord avec Laurent Wauquiez, c'est moi-même.
Vous voulez le dire.
Non, je suis d'accord avec la question qui m'est posée, c'est de savoir est-ce que oui ou non, la sortie est une sortie uniquement institutionnelle. Clairement non. La question des institutions... elle est posée par un certain nombre de nos concitoyens. Regardez tout ce qui est aujourd'hui sur la table au sujet du référendum d'initiative citoyenne. Mais de la même manière, sur ce manque d'adhésion entre nos citoyens et les parlementaires, sur ce sujet de la proportionnelle qui est, à mes yeux, quelque chose de très important à introduire. Mais au-delà de cela, il y a évidemment des questions économiques et sociales qui sont majeures. Prenez par exemple cette question de la rénovation énergétique. Il y a un vrai sujet de société de savoir comment on fait tous ensemble cette transformation écologique. Mais la rénovation énergétique, c'est un sujet écologique. Mais enfin, c'est un sujet de pouvoir d'achat.
Et l'ISF,
un Français sur cinq aujourd'hui qui a froid chez lui l'hiver. Mais sur le consentement à l'impôt, c'est ce que vous évoquez, il faudra trouver effectivement des moyens de renforcer ce consentement à l'impôt,
Ça veut dire que vous voulez faire une grosse remise à plat fiscale, parce qu'au fond, c'est ce qu'on demande en priorité, ou est-ce que vous faites des petits ajustements pour se dire, finalement, on ne va pas tout remettre en cause d'un coup ?
Alors, ce qui est très compliqué dans la fiscalité, c'est que c'est un tout. Il faut voir cela dans son ensemble. C'est-à-dire que la fiscalité, pour que tout le monde comprenne, c'est ce qui permet de financer tout le reste, ce qui permet de financer les services publics, les écoles, les hôpitaux. Et on a une chance incroyable dans notre pays d'avoir des services publics de qualité qui sont parfois en souffrance. Et il faut entendre cette souffrance et les améliorer, et qui sont, pour la plupart, totalement gratuits. Et donc, la question de fond, c'est de voir cette fiscalité dans sa globalité. C'est un des quatre thèmes du débat qui a été mis sur la table. Et d'ailleurs, sur les 600 000 contributions que j'évoquais tout à l'heure, vous avez à peu près un quart de ces contributions qui portent justement sur ces sujets de fiscalité.
Il est question de l'ISF ?
Il est évidemment question de l'ISF, évidemment.
En quelle proportion ?
Je ne pourrais pas vous dire parce que les analyses statistiques sont en cours, mais évidemment...
Non, mais si vous savez qu'un très grand nombre de questions portent sur la fiscalité, vous devez savoir à peu près combien de contributions concernent l'ISF et demandent sa suppression.
Non, il y a 600 000 questionnaires, donc aujourd'hui, on sait par tranche, par thème... Quels sont les questionnaires qui ont été répondus sur ces thèmes-là ? Mais je n'ai pas l'analyse des 25%
de... En tout cas, vous confirmez que la fiscalité est un des sujets majeurs et qu'il faudra la traiter.
Mais évidemment que c'est un sujet majeur. Évidemment. Après, il y a des sujets qui sont compliqués. L'ISF est un sujet compliqué.
Moi, j'ai mon avis personnel. À titre personnel, vous êtes pour le rétablissement de l'ISF ?
Non, à titre personnel, non. À titre personnel, j'y suis pas favorable pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je pense que si ça avait été un bon impôt, ça serait. Que beaucoup de personnes ont quitté le territoire à cause de cet impôt. Et puis deuxièmement, parce que moi j'ai vécu pendant des années, mon boulot ça a été d'aider les entreprises qui étaient en difficulté partout sur le territoire, ces PME, ces ETI. Et on était face à quoi ? À chaque fois la même histoire. L'entreprise fait un défaut de paiement parce que des problèmes de délai de paiement, par exemple. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie d'aller chercher des capitaux. Bah, figurez-vous qu'aujourd'hui, les capitaux, on va les trouver où ? On va les trouver aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Chine. On n'a plus ce capitalisme industriel français. Et donc moi, je suis très favorable à ce que l'épargne des Français soit mise vers le capitalisme industriel français pour faire des entreprises françaises puissantes.
Sauf que pour l'instant, on ne sait pas si effectivement ce capital français revient bien dans les entreprises.
C'est les évaluations qui sont en cours et il y a d'ailleurs une commission ad hoc qui a été définie avec des parlementaires pour le déterminer. Mais vous savez, j'ai très clair moi dessus là aussi. D'ailleurs, c'est même inscrit dans la loi. C'est inscrit dans la loi. Quand on a voté la transformation de l'ISF, on a inscrit dans la loi le fait que cela devait être évalué. Et en fonction de l'évaluation, eh ben on ajustera.
Mais vous dites d'ores et déjà qu'il n'y aura pas de suppression, de retour de l'ISF, malgré les évaluations.
Je vous donne ma position personnelle qui m'a été posée.
Est-ce que vous ne sous-estimez pas la portée symbolique ? Parce que vous parlez de l'ISF et vous nous répondez sur l'efficacité économique. Certains, même à l'AREM, disent que ça aurait dû être fléché. C'est-à-dire... on supprime sous condition 2. Est-ce que entre la tranche supplémentaire d'impôt qui peut être créée, la suppression de l'ISF, en gros, il va pas falloir en passer par là pour donner l'impression qu'on fait payer les riches et que c'est pas la rationalité économique, c'est pas tant le sujet quand on entend les gilets jaunes et les Français.
En fait, Julien de Normandie.
Vous avez une vraie question qui est cette justice sociale et fiscale. L'impôt sur le revenu, par exemple, 70% de cet impôt est payé par 10% de nos concitoyens. 70% d'impôts par 10%. Et donc la question, c'est effectivement, est-ce qu'on fait une fiscalité par totem en disant il faut qu'on la renforce pour telle ou telle tranche, ou est-ce que notre fiscalité, elle est suffisamment redistributive ? C'est diablement compliqué. Parce que d'un côté, c'est tout à fait normal que les plus aisés payent plus d'impôts.
Mais moi, président des ultra-riches, ça vous semble injuste ?
Mais,
c'est le titre d'un livre.
Il faut avoir toujours ce consentement à l'impôt. Et au bout d'un moment, il ne faut pas faire en sorte que les classes moyennes, qui souvent ont subi pendant des décennies ce matraquage fiscal, aient toujours...
Mais parlons des ultra-riches. Parlons des ultra-riches. Et président des ultra-riches, c'est le titre d'un livre que publient les sociologues Pinson-Charlot. Et en l'occurrence, ils font la liste de toutes les mesures fiscales qui ont été prises en faveur des plus fortunés. Exit tax, ISF, flat tax, baisse de l'impôt sur les sociétés bientôt, sans aucune contrepartie.
Mais vous savez, les riches, ils n'ont pas besoin de président. Les riches, ils n'ont pas besoin d'un gouvernement. Ils n'ont pas besoin de ces politiques publiques. Les riches, ils n'ont pas besoin de cela. Pourquoi on fait ça ? On ne fait pas ça pour faire plaisir à un tel ou un tel. Mais ce serait de la folie. Vous croyez que moi, je me suis engagé en politique pour faire ça ? Moi, je suis plutôt catho de gauche. Vous voyez ? Et ben pour autant, j'ai aucun mal à vous dire que oui, l'ISF, il faut aller au bout de cette réforme qu'on a portée pour voir si c'est utile ou pas. Mais pourquoi ? Parce que je crois qu'à la fin des fins, ce qui importe, c'est de faire en sorte que l'argent de tout le monde, elle soit utilisée en France pour créer des emplois. L'année dernière, on a créé 50 000 emplois.
Pour des raisons symboliques ou politiques.
C'est ça qui est important.
En fait, est-ce que la notion politique, il y a une réponse souvent un peu techno qui est de dire si ça marche, on va faire une évaluation. Est-ce qu'il n'y a pas un problème politique ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, dans tout ce qui sort depuis 3 mois, il y a quelque chose qui est une espèce de fureur irrationnelle ou pas contre le président et contre la politique menée à cause de choses...
Ce qui est sûr, c'est que c'est ça le moment de tension qu'on vit en ce moment. C'est qu'en fait, on oppose les uns aux autres. On oppose les Français, les riches aux pauvres, les employeurs aux grands patrons, aux patronats. Et donc, tout l'enjeu du grand débat, c'est encore une fois très compliqué, hein, mais tout l'enjeu du grand débat, c'est comment on arrive justement à réconcilier cela. Est-ce que on arrive justement à faire en sorte que chacun ressente plus de justice sociale. C'est pas évident, c'est pas évident. Et effectivement, cette perception, il faut la prendre en compte. Après, est-ce que cela doit passer par telle ou telle mesure ? Ben, on va le déterminer à partir de mi-mars pour justement lancer cet acte 2 du quinquennat.
Le ministre de la Ville et du Logement, Julien de Normandie, est l'invité de Questions Politiques ce dimanche.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Vous avez déjà eu droit à votre portrait, Julien de Normandie, mais tout change tellement vite qu'il fallait une mise à jour. Karine.
Julien de Normandie, vous êtes depuis presque 20 mois ministre et pourtant vous dites que jamais vous n'aviez songé à faire de la politique. Enfin, jamais vous n'aviez envisagé de quitter les coulisses ministérielles pour vous retrouver, comme aujourd'hui, sur le devant de la scène. En fait, pendant 12 ans, vous avez certes tiré quelques ficelles, mais sans être publiquement exposé, puisque vous étiez officiellement ce que l'on appelle un conseiller. Tout a commencé d'abord pour vous, Julien de Normandie, à la direction du Trésor. Vous avez mis ensuite votre expertise économique au service de l'ambassade de France au Caire, en Égypte. Et puis, vous avez travaillé au cabinet de la ministre Nicole Bricq, de Pierre Moscovici aussi, sans oublier d'Emmanuel Macron, quand il s'est retrouvé à Bercy, nommé à l'économie. Autrement dit, Julien de Normandie, depuis le départ, vous ne fréquentez que des lieux de pouvoir. Mais cela n'a rien à voir, c'est vrai, avec la politique qu'il vous a donc fallu apprivoiser très vite.
Merci pour votre accueil républicain, j'y suis sensible. Merci pour votre comité d'accueil. Juste un mot, parce que j'entends les locataires dire que j'aurais pu les oublier.
Alors c'était là votre premier congrès des organismes HLM, 28 septembre 2017. Vous étiez secrétaire d'État à la cohésion des territoires depuis seulement 3 mois. Maintenant, avez-vous appris, Julien de Normandie ? Oui, mais vous resterez un ministre probablement bien plus technique que politique, comme un ingénieur, ce que vous êtes d'ailleurs, puisque vous êtes issu de l'École nationale du génie rural, ce qui pour un macroniste peut sembler assez peu banal. Donc vous êtes un technicien carré, précis, et ce n'est pas pour rien qu'Emmanuel Macron vous confie toute la fabrication, toute la structuration à l'époque de son futur parti. Aujourd'hui, à 38 ans, il vous a chargé de la ville et du logement. D'un côté, il y a les dossiers, et de l'autre, très concrètement, les gens.
Mais attendez, ça fait un mois, depuis un mois, on a bossé, je peux vous dire, oui. Depuis un mois, la mairie, la métropole qui ont cette compétence, ces équipes avec qui j'étais, ils travaillent d'arrache-pied. Maintenant, la situation, moi je vous le dis très clairement, la situation, elle n'est pas acceptable, c'est pour ça que je suis ici.
Vous vous souvenez ?
C'était à Marseille.
Voilà, c'était à Marseille. Troisième déplacement après l'effondrement début novembre de 2 immeubles d'habitation. Vous êtes donc face à un habitant. Et ce qui est incroyable, c'est le mimétisme avec votre patron. Parce que dans le style, dans l'expression, on dirait du Emmanuel Macron. Reconnaissez que vous lui ressemblez. Vous avez, paraît-il, la même manière de raisonner. Mais lui aviez-vous dit, Julien de Normandie, vous qui travaillez sur bien des fractures numériques et sociales de notre société, lui aviez-vous dit qu'une crise des gilets jaunes était en train de monter ?
Question posée, votre réponse, Julien de Normandie.
Vous aviez vu ?
Ce qui est sûr...
Senti, perçu ?
Ce qui est sûr, alors, c'est toujours très facile de refaire le match. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que... Il y a un truc que je n'ai jamais oublié. C'est que cette colère qui s'exprime aujourd'hui, c'est exactement la même qui a fait l'élection d'Emmanuel Macron. La même. Il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, qui s'exprime, cette colère, elle repose sur quoi ? Elle repose sur beaucoup de nos concitoyens qui se disent « Mais en fait, moi, j'ai absolument pas les rênes de mon destin. Je suis assigné. J'ai pas les possibilités. »
Mais pour que nos auditeurs comprennent, Julien de Normandie, juste une précision, parce que vous ne répondez pas complètement à Karine, mais en l'occurrence, vous êtes le fondateur d'En Marche. Vous aviez eu l'idée de cette démarche en 2016, avant même qu'Emmanuel Macron ne soit officiellement candidat à la présidence de la République, d'envoyer des milliers de volontaires rencontrer les Français, faire du porte-à-porte, consulter, faire un diagnostic du pays. Bah, ça n'a pas si bien marché que ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu à l'époque ?
Non, la colère, on l'avait vue. C'est, encore une fois, c'est cette colère qui nous porte au pouvoir. Après, la question, c'est, au bout de 20 mois d'exercice du pouvoir, ben, les choses ne sont pas allées assez vite. Les résultats ne sont pas allés assez vite.
Parce que ce serait
très présomptueux. Si je vous dis, ben, bien sûr, j'avais tout vu.
Non, c'est pas ça. Vous étiez à la cohésion des territoires. Vous intéressez beaucoup à la fracture numérique, les questions de 4G, etc. Vous vous intéressez donc aux quartiers, aux problèmes de ville, de zones périphériques, le logement, qui est évidemment au cœur aussi du problème.
On va en parler dans un instant.
On va en parler. Donc vous étiez vraiment là où il y avait tous les facteurs où ça montait. Donc on se demande, vous allez régulièrement sur le terrain, on se demande si vous aviez senti, est-ce qu'il n'y a que les professionnels de la politique qui sentent ces choses-là?
Non, pas du tout. Cet état d'exaspération, on le sent tous les jours. Et vous évoquez le numérique. Il y a un truc hallucinant dans notre société.
Non, mais restons sur les gilets jaunes.
Mais ça répond précisément à ça. Vous savez, les gilets jaunes qui se disent, tout ce qui est fait, c'est pas pour nous. Mais songez, la fracture numérique, par exemple. Il y a le Parlement qui, il y a quelques mois, a voté une loi sur le télétravail, qui est une aspiration de beaucoup, parce que dans votre vie de tous les jours, le télétravail, c'est quelque chose qui peut être très bien.
Ça, c'est vraiment pas un slogan qu'on entend sur les ronds-points.
Non, mais si, enfin, vous savez, ça permet aussi de pas avoir à se déplacer, etc. Mais là où je veux en venir, c'est que la loi permet aujourd'hui à tout le monde de pouvoir dire à son employeur, télétravail, c'est pour moi. Au même moment, vous avez un Français sur deux qui n'a pas accès au très haut débit chez lui. Et donc, vous rendez compte, en fait, la société qu'on construit, c'est une société où d'un côté, on donne des droits, et de l'autre côté, vous avez la moitié de la société qui n'y a pas accès. Je peux vous dire que ça crée quoi? Ça crée des frustrations énormes. Ça crée, pour certains, le sentiment de dire, ils sont gentils là-bas. Ils définissent des lois. Mais nous, on en voit
d'accord. Vous l'avez pas vu venir, et donc, ça?
Mais oui, moi, je le vois tous les jours.
Vous faites une description.
Moi, je le vois tous les jours. Tous les jours.
Mais alors, on fait quoi?
C'est pour ça qu'il faut aller encore plus fort, encore plus vite dans la mise en œuvre. Mais le numérique, par exemple.
Non, Julien de Normandie, vous êtes en train de détourner la conversation, en l'occurrence. Non, c'est pas la question qui vous était posée. C'est intéressant, mais c'est pas la question qui vous était posée.
Intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous dites, au fond, on s'appuie sur la même colère que celle qu'il y avait pendant la campagne présidentielle pour accélérer. Mais en fait, c'est pas du tout ça qu'on vous renvoie aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous dit, il a accéléré les inégalités. C'est la notion de inégalité. Donc, comment vous répondez concrètement à cette idée que, au fond, ça va pas assez vite, mais en plus, il y a plus d'inégalités parce que les riches touchent plus que les pauvres.
Là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que toute la politique qu'on fait depuis 20 mois vise précisément à mettre fin à ces fractures territoriales, à ces inégalités territoriales. Quand toutes les actions qu'on fait pour les quartiers et les banlieues, ces discriminations qui perdurent, qu'on tape extrêmement fort, tout cet habitat insalubre sur lequel je me bats depuis 20 mois, toute cette fracture numérique qu'on a laissé se faire d'année après année, ça fait 20 mois qu'on y travaille d'arrache-pied. Mais après, ça va pas être un scoop. Est-ce que construire un immeuble, ça se fait du jour au lendemain? Est-ce que construire les pylônes pour aller fibrer l'ensemble de notre territoire, ça se fait du jour au lendemain? Évidemment non. Moi, sur le logement, je viens de passer une loi. J'ai mis un an à la faire passer.
On va en parler. Julien de Normandie, on va ouvrir le dossier.
Voilà, ça fait un mois qu'elle est passée. Le numérique, j'ai passé un deal hyper important avec les opérateurs en janvier dernier. Les premiers pylônes, ils arrivent dès le mois d'avril. C'est le temps des institutions versus le temps du ressenti et le temps de la mise en œuvre. Et moi, mon obsession, mais c'est bien normal, c'est de faire en sorte d'accélérer ce temps de réalisation. Et malheureusement, je voudrais que ça aille encore plus vite.
Vous pouvez concrètement l'accélérer? Par exemple,
mais vous savez, c'est beaucoup de transformations, c'est y compris une transformation dans l'action de l'État. Moi, ce que je retiens, par exemple, des Gilets jaunes, c'est qu'on peut ne pas être d'accord sur la vision politique. On l'a dit, la fiscalité, les totems, les symboles. Mais je pense que les Gilets jaunes, ils nous obligent sur un deuxième point tout aussi fondamental. C'est l'efficacité de l'action publique. Songez, par exemple, ce fameux chèque énergie dont on parlait, le chèque énergie. Mmh. 3 millions de personnes éligibles. On va faire en sorte que ce soit 5 millions maintenant. Eh bien, sur les 3 millions de personnes éligibles, 560 000 n'en ont jamais vu la couleur. Jamais. Parce que trop loin, parce que pas le bon outil pour y avoir accès. Mais ça, c'est un truc de dingue. Et donc, c'est quoi l'efficacité de l'action?
Un truc de dingue, un pognon de dingue, aurait dit le président de la République. Et justement, parce que vous n'avez pas évoqué cette question qui est posée aussi par le mouvement des Gilets jaunes depuis son début, c'est la question de la personnalité même d'Emmanuel Macron, Nathalie.
Et une impression de fixation qu'il y a sur Emmanuel Macron, comme s'il avait fait croire qu'il était magique pendant la campagne et que les gens se sont réveillés en se disant qu'il ne l'était pas du tout, avec l'impression que ça se joue entre 67 millions de Français et le président, avec des slogans appelant à la démission, avec des images d'où on le guillotine, avec cette espèce de relation entre le roi, ou un mythe ou une réalité. Est-ce que vous pensez en clair qu'il peut renouer avec les Français ou qu'il y a quelque chose qui cloche avec sa personnalité même?
Julien de Normandie.
Déjà, il ne faut jamais faire de cas particulier une généralité. Vous avez, quiconque qui prend le portrait d'Emmanuel Macron et qui va le guillotiner sur la place publique, je pense qu'il a une conception de la République qui n'est pas tout à fait la mienne.
Il ne faut
pas faire d'un cas particulier une généralité.
On a l'impression qu'il y a une fixation.
Mais c'est vrai, vous avez raison.
Presque haineuse sur lui.
Mais évidemment que ce sujet-là est porté. Il suffit de lire ce qui est marqué sur les gilets jaunes. Mais deuxième élément, pour répondre à votre question, moi je crois justement que ce qu'a encore démontré le président de la République depuis 15 jours, à faire tous ces débats avec les élus locaux, je serai avec lui demain à Évry-Courcouronnes pour un débat avec des élus locaux, des maires, mais aussi des associations, des citoyens de quartier. Je veux vous dire que le président de la République, eh ben, on lui reproche d'ailleurs souvent parce que c'est probablement là où il a ces petites phrases qui sont ensuite reprises. Mais il va toujours vers les Français. Toujours. Dans tous ses déplacements, vous l'avez vu comme moi, il va vers les Français.
Mais alors pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il allait changer et que c'était fini les petites phrases? C'est bien qu'il y avait un problème.
Parce que aujourd'hui, alors lui-même a reconnu que certaines de ces petites phrases avaient pu blesser. Et c'est important à prendre en compte.
Et qu'il allait changer.
Et deuxièmement, aujourd'hui, il y a un sujet de la manière qu'on a d'expliquer ce que nous faisons. Et ce que dit le président de la République dans ce fameux entretien avec certains journalistes, c'est deux choses. C'est dire cette semaine. Cette explication, il faut que elle soit plus précise, plus globale, et que c'est vrai que les petites phrases parfois n'ont pas permis cette explication des réformes que nous avons pu porter.
Donc c'est un problème de pédagogie.
Le deuxième élément qu'il dit qui est très fort.
S'il faut mieux expliquer, c'est exactement la définition de ce qu'est la pédagogie.
Parce que le deuxième élément, et je ne fais jamais partie de ceux, jamais, qui considèrent que le problème en politique, c'est l'explication.
Alors quand vous dites c'est mieux, vous venez de le dire.
Je vais finir ma phrase. Parce que l'explication, c'est nécessaire, mais le deuxième élément que met en avant le président de la République, c'est que toutes les réformes doivent être partie d'un prisme qui est le quotidien et l'accessibilité par les Français. Et c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure sur l'efficacité de l'action publique. Oui. Aujourd'hui, comment vous faites des réformes qui partent véritablement des
problèmes
des Français?
Restons sur la question du président de la République.
C'est extrêmement important.
Parce que c'est évidemment lui qui est pointé du doigt et c'est lui qu'on tient pour responsable et c'est lui qui est mis en cause dans le mouvement des Gilets jaunes régulièrement depuis 12 semaines. Françoise.
On a beaucoup entendu aussi Emmanuel Macron demander à ses ministres de reprendre la main sur l'administration, d'être plus présent, en quelque sorte plus politique. Est-ce que c'est l'idée aussi qu'au fond, Emmanuel Macron ne peut pas tout seul et qu'il faut une reprise en main des administrations pour que l'État démontre son efficacité? Ou alors, est-ce que c'est très beaucoup plus compliqué que ça et qu'au fond, il y a une inefficacité de l'État aujourd'hui, peut-être parce que les fonctionnaires ne sont pas placés au bon endroit, peut-être parce que l'État est surendetté, donc il est beaucoup moins mobile qu'avant. Quelle est votre analyse là-dessus?
Mon analyse, c'est comme toute structure, il y a une vraie révolution à faire. Et je dis avec d'autant plus, à la fois d'humilité, mais de regard critique, que moi-même, j'ai été fonctionnaire, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc je sais pertinemment comment ça se passe. Je vais donner un exemple qui est ô combien parlant. Prenez les organigrammes des ministères. Vous avez des bureaux qui s'appellent le bureau B2, F4, Fininter, des mots incompréhensibles. Moi, dans mon administration, par exemple, je suis passé d'une gestion de bureau à des chefs de projet. Fini le bureau.
Mais comment, vous n'avez pas fait le ménage en arrivant?
On a fait le ménage. Moi, j'ai par exemple beaucoup de mes directeurs d'administration qui ont changé. Et puis aujourd'hui, dans toutes mes politiques publiques, j'ai nommé une personne, par exemple, en charge de construire 60 000 logements pour les étudiants. Et non pas monsieur numéro B2, qui n'a aucun sens. Mais ça, cette transformation, le fait de se dire comment vous, ce que j'expliquais tout à l'heure sur le chèque énergie, comment quand on conçoit le chèque énergie, on peut à la fin arriver à un système où vous avez 560 000 personnes qui n'y ont pas accès, mais on marche sur la tête. L'efficacité énergétique des bâtiments. Figurez-vous, par exemple, moi j'ai vu des cas où pour aller transformer une maison, il fallait 11 intervenants, des associations, l'État, des agences, 11 intervenants. C'est juste délirant. Et donc cette transformation de l'État, c'est quoi? C'est de faire en sorte que ce soit simple d'accès, et j'insiste sur le terme d'accès pour nos concitoyens. C'est ça qu'on est en train de faire. Sur par exemple la rénovation énergétique des bâtiments, on a transformé la chose avec François de Rugy. On a mis en place une structure qui s'appelle FER 0808-800-700 pour dire aux gens vous y allez et voilà votre plateforme et c'est facile d'accès. C'est la chaudière à 1 euro. On s'occupe de tout. Mais ça, c'est une vraie transformation des structures, comme quand vous transformez une entreprise, une association. Ça prend un certain temps. Mais moi, je le répète, ce qu'on vit en ce moment dans notre pays, c'est à la fois la vision politique, je le nie pas, mais c'est l'action et l'efficacité de l'action publique.
Et alors,
c'est ça sur lequel il faut aussi renforcer complètement les moyens.
La transition est toute trouvée puisqu'il s'agit
encore d'inefficacité, voire de responsabilité même des administrations et des pouvoirs publics. Hier après-midi, des milliers de personnes défilaient à Marseille, une marche de la colère contre le mal logement après les drames de la rue d'Aubagne dans le centre de Marseille. 8 morts, avec une question qui est posée autour des responsabilités. Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, était en visite sur place. Il a pointé la responsabilité du maire Jean-Claude Gaudin. Il a aussi posé cette question. Mais l'État, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Et comment tous ces gens ont laissé toutes ces choses aller à ce point? Voilà les deux questions que pose Jean-Luc Mélenchon. Vous qui êtes le ministre de la Ville et du Logement, comment est-ce que vous répondez à cette question?
Je dis, vous savez, Monsieur Mélenchon, il hurle. Il adore hurler, mais il propose rien. Mais
là, il propose la création de permis de louer pour éviter que des gens puissent louer des taudis.
Ça existe déjà. Elle est belle l'affaire. Ça existe déjà. Il a été près de 20 ans sénateur, 8 ans député européen, maintenant 2 ans à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il a jamais posé une question sur le drame de Marseille. Pas une fois. Sur la lutte contre l'habitat insalubre, par exemple. Moi, j'ai travaillé main dans la main avec des députés de l'opposition. Un député que je salue, Stéphane Peu, communiste. On peut pas m'accuser d'être communiste. Eh ben, j'ai travaillé avec lui pour voir comment, concrètement, par la loi, on peut renforcer les sanctions contre les marchands de sommeil. Monsieur Mélenchon, il hurle, il propose rien. À Marseille, moi, j'y suis allé trois fois.
Est-ce qu'il y a une responsabilité de l'État?
Mais alors, les responsabilités sur le relogement et sur la lutte contre l'habitat dit en péril, c'est les responsabilités des collectivités locales. Mais l'État est là, et c'est ce que j'ai fait, moi, en me rendant à 3 reprises à Marseille, en mettant en place des moyens supplémentaires, en mettant en place une gestion de projet, parce que la situation, elle n'est pas acceptable aujourd'hui à Marseille. Et donc, j'ai mis tout ça en place. Est-ce que vous croyez que j'ai vu M. Mélenchon lors de ses dernières visites pour nous dire il faudrait faire ceci ou cela?
Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une responsabilité donc, dans la politique que vous menez sur le logement? Vous avez limité, retiré des moyens au HLM. Résultat, en tout cas, il n'y a pas un nombre de logements neufs suffisant. Les gens se tournent vers des logements du privé. Et ces logements du privé, s'ils veulent pouvoir se les payer, ben effectivement, ils sont obligés de se tourner vers ces logements plutôt indignes et dans lesquels peu de monde aurait envie d'aller habiter. Donc, il y a quand même une responsabilité de l'État, en tout cas de votre politique. Votre politique, elle fonctionne pas.
Non, mais vous savez, pour continuer sur Marseille. Sur Marseille, vous avez il faut voir de quoi on parle. Vous avez 300 immeubles qui ont été évacués. 2000 personnes.
Oui.
2000 personnes dehors. Depuis lors, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, l'État, on a envoyé des experts pour consolider l'expertise de la collectivité pour faire en sorte que toutes celles et ceux qui le peuvent puissent retourner dans leurs immeubles. Plus de 65 immeubles ont ainsi pu voir leurs habitants revenir. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a renforcé les moyens pour aller plus vite dans la réhabilitation, soit des grandes copros dégradées, soit de l'habitat individuel. Et enfin, qu'est-ce qu'on a fait? On a identifié, là où on pouvait le faire, des logements dits vacants, vide, pour pouvoir les flécher directement par les sinistrés.
Mais vous ne répondez pas à Karine.
Exactement. Très bien.
Vous ne répondez pas à Karine.
Non, mais parce que ce qui est très...
C'est l'urgence, ça.
Mais
okay.
Oui, mais ce qui est très important, c'est que vous savez, cette politique de la lutte contre l'insalubrité, moi, j'en ai fait la priorité numéro 1 de mon ministère.
Alors, pourquoi avoir coupé Julien de Normandie dans les budgets qui permettent de financer les logements sociaux?
Voilà. Je termine juste. Figurez-vous que 3 semaines avant le drame, rue d'Aubagne, 3 semaines, je suis à Marseille pour annoncer justement cette politique de lutte contre l'insalubrité. C'est 18 milliards d'euros qu'on met en place. 3 milliards sur 10 ans pour lutter contre les copros dégradés. 5 milliards sur 5 ans pour lutter contre ce logement insalubre dans les villes moyennes, les sous-préfectures. Et 10 milliards d'euros sur un peu plus de 10 ans dans les quartiers prioritaires.
Mais pourquoi ne pas répondre à la question de Normandie?
Je vous y réponds. Sur la lutte contre l'insalubrité, la réhabilitation des
bâtiments. Pourquoi avoir coupé
dans
les budgets qui permettent de financer les logements sociaux? C'est une question que pose la Fondation Abbé Pierre. Elle vient de remettre son rapport annuel cette semaine et elle met en cause justement cette politique contradictoire. D'un côté, une philosophie que vous venez de rappeler, une politique ambitieuse, et pourtant, coupe de 4 milliards d'euros dans les APL, coupe dans les budgets qui permettent de financer les logements sociaux, et on construit moins de logements sociaux cette année que l'année dernière.
Alors,
expliquez-nous.
Il faut être hyper précis là-dessus. Les 18 milliards que je viens de vous évoquer, c'est pas des financements qui sont dans les budgets, comme on dit. C'est pas la ligne budgétaire que met en avant la Fondation Abbé Pierre. Tout ça, c'est de l'argent qu'on met, qu'il faut déployer aujourd'hui. Et par exemple, sur la rénovation dans les quartiers, depuis mai 2018, donc depuis 6 mois, c'est 4,3 milliards qu'on a engagé, pour vous donner un ordre d'idée. Si cet activisme est pas fort, faut me l'expliquer là. Après, la Fondation Abbé Pierre, elle dit quoi? Fondation Abbé Pierre, elle est pas d'accord sur une politique qu'on mène, qui est celle de la réforme des APL. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, le logement social aujourd'hui en France, il est financé à deux reprises. Il est financé en amont, parce que c'est l'État qui finance les bailleurs sociaux avec les collectivités, et à la sortie, quand on finance les locataires. Bon. Et nous, quelle est la politique qu'on fait ? Eh ben, cette politique, c'est de soutenir en amont, pour soutenir les bailleurs sociaux dans leur construction, dans leur rénovation. Et être moins dépendant des aides à la
sortie. Juste une toute petite précision, la réforme du système des APL, la baisse, a été donnée souvent comme la première bêtise du quinquennat ou le commencement de la fin, ou le commencement de quelque chose qui n'allait pas bien. Est-ce que vous envisagez de revenir là-dessus et de remettre à plat le système et de revenir sur cette décision?
Julien de Normandie.
Là, vous évoquez un point très précis.
Oui,
précis,
juste une petite question.
C'est une question, monsieur le ministre.
La réforme de moins 5 euros de l'été 2017.
Qui a été donnée dans les choses symboliquement.
Et moi, j'ai eu l'occasion de le dire, je trouvais que c'était une décision pas bonne. J'ai eu l'occasion
de
le dire.
Comme pas bonne, est-ce qu'on peut revenir dessus ?
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai porté une nouvelle réforme des APL, qui est une réforme pour faire en sorte que les APL aujourd'hui, elles vous soient versées en fonction de vos besoins d'aujourd'hui, un peu comme l'impôt à la source.
Et c'est ça la grande réforme. Il n'y a pas un décalage dans le temps.
Exactement.
D'accord.
C'est ça la grande réforme du moment. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous que les APL que vous avez, elles sont en fonction de vos revenus d'il y a deux ans.
Ça, on sait. Mais voilà.
Et ça, cette réforme, c'est celle-là que je porte aujourd'hui, qui est en cours.
Une réforme que vous portiez, c'était quand même le choc de construction. Mmh. C'était construire plus, et en construisant plus, a priori, on pouvait espérer que les loyers baissent un peu. Le logement social, vous avez annoncé 109 000 nouveaux logements.
109 000 sur l'année 2018, on était à 113 000 exactement en année 2018.
Donc moins que l'année dernière, alors qu'il y a un manque criant de logements sociaux.
C'est là quand même qu'on sent que la dynamique, elle n'est pas là, et on sent effectivement qu'il n'y a pas les logements suffisants. On est en plein cœur de la crise des gilets jaunes. La plupart des gens expliquent très simplement qu'ils ont le sentiment d'avoir moins à dépenser parce qu'ils mettent de plus en plus dans leur loyer. Comment on fait pour changer en fait cet état des choses ?
Là aussi, moi je... Il manque 1,5 million de logements sociaux en France. 1,5 million.
Bon. Et donc, comment on arrive à en construire moins ?
Expliquer les baisses de construction, c'est trop facile de dire c'est telle ou telle politique, notamment que des politiques budgétaires. Vous avez des cycles, vous êtes en avant, par exemple, d'élections, notamment les élections municipales. Vous avez parfois la taxe d'habitation qui a pu faire peur à certains en se disant comment on va être mangé. Donc, il y a plein de facteurs. Ce qui est sûr, c'est qu'est-ce que j'ai fait, moi ? J'ai passé une loi avec des mesures hyper fortes, qu'on appelle la loi logement. Elle a été adoptée il y a un mois et demi. On est en train de la mettre en œuvre. Et donc, le logement, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure. On a pris des mesures inédites, très fortes, pour faire en sorte de soutenir cette construction. La loi, elle a un mois et demi. Je suis en train de la mettre en œuvre. Et en revanche, sur ces logements sociaux, les chiffres qu'on évoquait là, moi, j'ai fait une attention très particulière à faire en sorte que les logements très sociaux soient en progression. Plus 8% cette année. C'est un élément très important parce que c'est quelque chose qui permet par exemple à toutes celles et ceux qui sont dans la plus grande précarité d'avoir accès à ces logements sociaux. C'est ce qu'on a fait, plus 8% sur cette année. Mais le logement, effectivement, faut des mesures fortes. On les a adoptées il y a un mois et demi. On est en train de la mettre en œuvre. Le problème, c'est que j'ai pas une baguette magique pour faire en sorte que du jour au lendemain, on construise 1,5 million de logements en France.
C'est ça le choc de la période, c'est qu'on s'aperçoit qu'Emmanuel Macron n'a pas la baguette magique pour transformer le pays.
Mais vous imaginez comme ce serait présomptueux de le dire. S'il y avait une baguette magique, je crois très sincèrement.
Mais en même temps, vous voyez bien le procès qu'on vous fait.
Son livre programme était révolutionnaire.
Tous les gouvernements se succèdent et on a l'impression que le problème du logement, qui est effectivement à l'origine pour beaucoup de la crise des gilets jaunes, elle perdure à travers les politiques et donc il y a une sorte d'impuissance de l'État là-dessus.
Vous savez, encore une fois, je pense que ce que je vous disais tout à l'heure sur le logement insalubre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses inacceptable dans notre société. Logement insalubre, qu'est-ce que ça a provoqué ? Ça a provoqué des bandits qu'on appelle les marchands de sommeil, qui se sont saisis de la chose. Et vous savez, qu'est-ce que c'est que ces marchands de sommeil ? C'est des gens qui agissent en toute impunité. Figurez-vous, il y a moins d'un an, Max Dormois, à Paris, un marchand de sommeil qui se fait condamner. Hein. La mairie l'exproprie. Elle est obligée de lui verser 6 millions d'euros à cet escroc. 6 millions d'euros parce que on lui exproprie son immeuble. 6 millions d'euros. C'est délirant. Eh ben, tout ça, je l'ai changé dans la loi logement. Aujourd'hui, un marchand de sommeil, il est considéré comme un trafiquant de drogue. Aujourd'hui, un marchand de sommeil, quand on l'exproprie, on n'a plus à lui verser ses indemnités d'expropriation. Elles sont gelées. Tout ça, c'est en cours. C'est en train de se mettre en œuvre. Et d'ailleurs, on a des premières décisions de justice à Bobigny récemment, où un ancien médecin a été condamné sévèrement pour lutter contre ce fléau. À Pierrefitte, j'étais avec Nicole Belloubet il y a une semaine, Pierrefitte, pour aller justement constater ce que faisait un marchand de sommeil. Le marchand de sommeil, voyant qu'il y avait un peu de monde, il débarque, il vient nous voir, avec un sentiment d'impunité exaspérant, insupportable. Eh ben, ces marchands de sommeil, parce que justement, on va les taper très fort. J'ai même dans la loi obliger les agences immobilières et les syndics de copropriété à les dénoncer. Il y a ce terme dans la loi de dénonciation. Eh ben, c'est comme ça, en prenant des mesures très fortes, en les tapant, qu'on mettra fin à ce fléau. Sur l'insalubrité, 18 milliards d'euros qu'on met en place également. Donc je peux vous dire, on y va franco, avec beaucoup de conviction, beaucoup de force, mais effectivement, dans le logement, peut-être bien plus qu'ailleurs, eh ben, du jour au lendemain, il n'est pas possible de construire 2 millions de logements.
Mais il y a l'importance de défendre votre politique et il y a évidemment les questions soulevées ou les remarques et les critiques portées par des fondations. Je citais la fondation Abbé Pierre. Chacun se fera son jugement.
J'ai passé toute ma matinée vendredi.
Est-ce que vous avez lu Madame la Présidente, le livre de Nathalie Schuck et Ava Damchidi?
Non.
Non?
Non.
Alors on découvre que vous faites partie des Mormons. Les Mormons, c'est ce commando de quelques personnes qui ont accompagné Emmanuel Macron dans sa conquête du pouvoir depuis les tout débuts, depuis Bercy. C'est un tout petit groupe, il y a des conseillers du président, Sibeth Ndiaye, Ismaël Emelien, Benjamin Griveaux, vous-même. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous vous êtes baptisé vous-même les Mormons?
Je ne sais pas. Il faudrait demander à ceux qui l'ont baptisé parce que je ne sais pas.
Vous ne savez pas.
Non, je peux pas vous dire, mais je suis pas sûr que ce soit l'un de ceux que vous évoquez qui l'ait fait. Je pense que c'est plutôt des commentateurs qui l'ont dit. En tout cas, je l'ignore, mais je lirai avec grand intérêt ce livre.
Pas sûr que ça vous plaise. En l'occurrence, ouais. Le portrait de votre groupe est assez dur. Vous êtes décrit comme arrogant. Vous seriez en situation de guerre froide avec la première dame, avec Brigitte Macron.
C'est tout ça est insupportable. Enfin, je veux dire, je connais très bien la première dame que j'admire énormément à beaucoup d'égards. Je trouve que c'est absolument insupportable. Il y avait un de vos confrères qui faisait un article.
Pourquoi insupportable ?
Parce qu'il y a un de vos confrères qui a fait un article indécent cette semaine, mais indécent, en prêtant des propos à un certain nombre de collaborateurs vis-à-vis de la Première Dame. Juste indécent. Je ne comprends pas que des journalistes aient pu écrire des choses pareilles.
Parce que c'est faux.
Parce que c'est archi faux pour bien connaître l'ensemble des intéressés. Et je trouve ça totalement indécent.
Il y a eu toute une interrogation sur changer le style d'Emmanuel Macron et peut-être aussi ouvrir l'Élysée, peut-être à d'autres personnes que ceux qu'on appelle les Mormons, c'est-à-dire ceux qui ont fait sa campagne électorale. Il y a eu notamment l'idée que c'est peut-être pas les mêmes qualités pour gagner que pour ensuite gouverner ou présider. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous vous sentez remise en cause?
Julien de Normandie.
Non, pas du tout, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de légende urbaine qui consisterait à dire que le président de la République gouverne à quelques-uns. Vous savez, quand vous êtes président de la République ou chef du gouvernement, vous avez derrière vous des ministères, des administrations, des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes qui travaillent dans un collectif. Quand vous êtes président de la République, vous êtes garant de tout cela. Et donc, en aucun cas, vous avez cette présidence à quelques-uns que certains aimeraient ou essayent de mettre en
œuvre. Mais vous étiez un petit groupe, en tout cas, au début, pour l'accompagner dans la conquête du pouvoir. Oui. Lui-même le disait à la Maison de l'Amérique latine au mois de juillet, quand il parlait d'Alexandre Benalla, quand on démarre et qu'on n'a pas de réseau, eh bien, on s'appuie sur le petit groupe de ceux qui sont là pour vous soutenir.
Mais c'est-à-dire que quand, début 2016, on lance le mouvement En Marche, beaucoup nous disaient « Qu'est-ce que c'est que votre truc? C'est de la folie, ça ne marchera jamais. » Énormément, peut-être même autour de cette table, certains doutaient beaucoup de ce mouvement. Et donc, effectivement, au début, ils étaient quelques-uns et puis ils finirent beaucoup plus nombreux.
Vous avez gardé des nouvelles avec d'Alexandre Benalla?
Non.
Non? Non. Plus du tout?
Plus du tout.
C'était un pote?
Non, je ne peux pas dire que c'était un pote, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez partagé une campagne présidentielle.
Et depuis combien de temps vous n'avez plus de contact avec lui?
Depuis, je ne saurais pas vous dire, mais depuis au moins le début de cette affaire dite Benalla.
Est-ce que ça pose quand même la question du choix des collaborateurs? Est-ce que parfois, ou souvent, le président s'est trompé dans certains de ses choix de collaborateurs? Proche, très proche.
Non, enfin, moi je pense que ça renvoie plutôt sur des questions d'organisation des structures, d'organisation des institutions. Et c'est ça notamment qu'a voulu le président de la République en demandant à voir quelles étaient les modifications pouvant être faites au sein de l'Élysée et de l'Élysée avec les structures avec lesquelles elle travaille. Mais c'est trop facile après tel ou tel événement, après une faute très grave, hein, mais faite par un individu, de dire, de manière générale, c'est une faute dans le choix des collaborateurs.
Nathalie Saint-Cric.
On a l'impression que tout le monde a trouvé sa tête de liste. Que ce soit les Républicains avec
pour les élections européennes,
pour les élections européennes, que ce soit avec Manon Aubry, la France Insoumise, Jordan Bardella, que des jeunes. Vous avez dit qu'il y avait des milliers de gens avec lesquels Emmanuel Macron était en contact. Est-ce que c'est possible qu'avec ces milliers de gens, il ne trouve pas quelqu'un pour essayer de gagner une élection qui est, d'après ce qu'il dit, quelque chose de central pour lui?
Julien de Normandie.
Je vous annoncer un scoop. Il y aura une tête de liste aux européennes.
Oui, d'accord. Vous allez me dire aussi que le programme est plus important que la tête de liste.
Le groupe LREM est en train de la définir.
C'est quoi le problème? C'est quoi le profil? C'est quelqu'un d'expérimenté plutôt?
C'est quelqu'un qui incarne un vrai projet européen. Mais vous pouvez
le
me cuisiner.
C'est qui? C'est autant... la tête de liste ou le président? Enfin...
Non, la tête de liste.
Ça vous devrait pouvez... être quelqu'un qui.
C'est voilà. Quelqu'un qui doit incarner quel est le projet
donc,
européen.
Connu.
Pas forcément qu'il doit l'incarner, mais vous savez, moi je trouve que ce qui vient de se passer, par exemple, avec la désignation de Monsieur Bellamy par Monsieur Wauquiez, en dit long sur ces élections européennes. La République en marche, elle a fait de l'Europe un des socles de son combat politique, y compris d'ailleurs pendant la présidentielle. On était les seuls, par exemple, à brandir le drapeau européen
totalement
dans les meetings.
Mais qu'est-ce que ça vous inspire que François-Xavier Bellamy dirige la liste LR?
Moi, j'ai l'impression que ça a choqué peu de gens, alors que dans la même semaine, vous avez Monsieur Wauquiez qui intronise donc Monsieur Bellamy comme tête de liste. Donc vous sentez un retour vers une droite réactionnaire conservatrice important, avec une personne, Monsieur Bellamy, qui est contre l'IVG, qui est contre le mariage pour tous, alors même que l'Europe qu'on souhaite, c'est cette Europe du progrès, cette Europe inclusive. L'Europe, c'est avant tout un partage entre peuples.
D'accord, mais est-ce que c'est quelque chose de tellement essentiel que ça serait, par exemple, dramatique de mélanger avec le référendum. Répondez-moi juste.
Voudrais juste insister juste sur un point sur Monsieur Wauquiez parce que.
Et il nous reste 2 minutes, donc vraiment rapidement.
Parce que pour moi, c'est quelque chose incroyable qui s'est passé la semaine dernière. Et je comprends d'ailleurs que beaucoup aujourd'hui se posent la question de rester aux Républicains. Je comprends mes collègues du gouvernement qui est définitivement fermé la porte du parti dirigé par Monsieur Wauquiez. La même semaine, vous avez Monsieur Wauquiez qui nomme Monsieur Bellamy anti-IVG, anti-mariage pour tous, tête de liste de cette élection européenne. Et en même temps, M. Wauquiez, qui fait porte ouverte à M. Zemmour, au Parti des Républicains, l'accueillant d'une manière très mielleuse avec un Éric Zemmour tout autant mielleux, en lui disant « Vous êtes ici, chez vous. » Mais vous rendez-vous compte, il y a quelques semaines, ce M. Zemmour, sur un plateau de télévision, s'adresse à une jeune entrepreneuse, Mme Absatou Si, en lui disant « Madame, votre prénom est une insulte à la République. Une insulte à la République. Comment voulez-vous que ce parti, qui donc au final, ce M. Wauquiez, fait un virage toute vers une droite réactionnaire, vers une droite conservatrice.
Ouais, nouveau,
et que, hein. Oui, mais vous rendez compte, pour moi, c'est quelque chose de profondément choquant qu'un parti qui s'appelle les Républicains invite en disant « Vous êtes ici, chez vous », un individu qui croise une personne dont le prénom n'a pas une origine catholique
c'est devenu
en
votre
disant
principal opposant, «
Vous êtes une
Laurent
insulte
Wauquiez.
À la République ».
C'est devenu votre principal opposant, Laurent Wauquiez?
En tout cas, cette semaine, je peux vous dire que moi, j'ai été profondément choqué par cette attitude et je comprends toutes celles et ceux qui, au sein du Parti des Républicains, se demandent est-ce que c'est vraiment ça.
Donc c'est l'intention d'aller récupérer la droite modérée? C'est un peu ce qu'on perçoit dans la politique d'Emmanuel Macron,
oui.
Justement. Cette droite modérée qui ne reconnaît pas chez Laurent Wauquiez.
Enfin, c'est ni une occasion, rien. C'est pour moi un constat que je fais à la fin de cette semaine. Vous avez un monsieur Wauquiez qui a laissé tomber son masque et quand il invite ce monsieur Zemmour, qui pour moi a tenu des propos insensés, inacceptables dans une république, en insultant le prénom d'un de nos concitoyens, eh ben, je trouve effectivement que beaucoup des personnes aux Républicains qui aujourd'hui se posent des questions, je trouve que c'est assez juste.
Un mot sur la grande opération de lutte contre les discriminations que vous menez dans les quartiers, dans les banlieues, notamment discrimination dans les entreprises. C'est la plus grande opération de ce qu'on appelle le testing, c'est-à-dire des tests anonymes pour mesurer les discriminations à l'embauche, selon qu'on s'appelle Xavier, Ali, Rachid ou Absatou, par exemple. Où est-ce que vous en êtes?
Aujourd'hui, alors que les Républicains, justement, font la part belle à Éric Zemmour qui insulte toutes celles et ceux qui ne portent pas un prénom d'origine catholique, la réalité dans nos quartiers, c'est que vous avez un taux de chômage qui avoisine le 25%, là où il est un peu plus de 9% en moyenne nationale. Et là où il y a une sorte de promesse républicaine non tenue, c'est que cette discrimination, plus vous avez fait des études, plus elle est forte. Et donc, imaginez quand vous... jeune d'un quartier, vous avez fait des efforts, votre famille a fait des efforts, la République vous a donné accès à l'école et qu'à la fin, vous avez une barrière devant vous. Et donc là, on lance un testing. Plusieurs dizaines d'entreprises sont testées actuellement. C'est 10 000 tests qui sont faits. La plus grande enquête de testing jamais faite. On aura les résultats fin mars et on prendra les décisions au regard des
Est-ce que vous rendrez public le nom des entreprises qui pratiquent la discrimination à l'embauche? Est-ce qu'il y aura du name and shame?
L'objectif est clairement de le faire, oui.
Vous le ferez?
Oui.
Merci Julien de Normandie, l'émission se termine, je vous souhaite un bon dimanche, merci à toutes les trois, merci à Alexandre Gilardi qui a préparé cette émission, à toute l'équipe technique de Question Paul, rendez-vous la semaine prochaine.